This is Radio Free Brothers.
Minutos en Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Pékin, Bruxelles, Gaza, ce sera ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Un jour dans le monde numérique, Julien Baldacchino tout à l'heure sur Google et l'éducation, plus des nouvelles toujours riches de l'intelligence artificielle. 18h55, c'est l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde consacré ce soir au président français et à la politique étrangère. Tout de suite on parle d'Europe.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Et on va continuer à explorer ce que pourrait être la fameuse relance européenne que le président Macron entend impulser au sein de l'UE. Une relance qui prendrait déjà la forme de liens resserrés avec l'Allemagne et à partir de là permettrait de mettre à plat un certain nombre de dysfonctionnements criants de la zone euro. Voilà ce que j'en ai compris. Comment y parvenir? Comment les Européens voient-ils de tels projets? On pose la question ce soir à Enrico Letta. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro d'Inter, ancien président du Conseil italien, président de l'Institut Jacques Delors, doyen de l'École des Affaires Internationales de Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, éventuellement définir, voire détailler ce que sont les ambitions européennes de la France aujourd'hui?
Combien de temps vous pouvez me donner?
On a un petit quart d'heure.
Je vais essayer. Bon, écoutez, premièrement, il y a beaucoup d'attentes. Ça, c'est la vérité. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'attentes comme maintenant. C'est-à-dire que on vient d'une longue période dans laquelle l'année 2016 a été une année de rupture. Rupture qui ont mis presque en crise l'idée même d'Europe. On a parlé d'une Europe qui est redevenue mortelle. C'est-à-dire, pour la première fois, on s'est dit, bon, tout peut se casser. Donc, première chose, grande attente parce que la façon dans laquelle Macron a gagné et le fait que c'est un peu toute l'Europe qui a poussé pour cette victoire donne aujourd'hui un souffle, une légitimité et une force à ce que Macron peut faire qui peut-être aucun autre président français n'a eu dans le passé récent, voilà, dans les dernières 15 années. Deuxièmement, et ça c'est peut-être la chose la plus nouvelle, le Brexit fait en sorte que la France reste aujourd'hui la seule puissance militaire, nucléaire, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein de l'Union européenne. Donc c'est un rôle qui s'est accru au sein de l'Europe. Troisième point, on vient d'une décennie qui était toute complètement concentrée sur la finance et l'économie, qui était un peu au centre du tout. Et c'était naturel que ce soit l'Allemagne à mener le leadership et le jeu en Europe. Je crois que cette décennie est en train de se terminer et on entre dans une période dans laquelle c'est plutôt l'identité, les frontières, la sécurité qui sont plus importantes. On a vu même Brexit et Trump ont été deux grandes élections qui ont été dominées plutôt par des aspects identitaires et sécuritaires. Et là, il est naturel que la France soit en condition de remettre en équilibre un axe franco-allemand qui était plutôt déséquilibré du côté, disons, allemand. Et donc, aujourd'hui, on a cet aspect qui peut être intéressant. Ce sont trois éléments de scénario qui nous disent pourquoi aujourd'hui il y a tant d'attentes et c'est tellement, je pense, important pour l'Europe que la France soit là et prenne une initiative.
Alors, la France a donc la main, ou en tout cas peut l'avoir. Vous venez de le dire, elle peut et doit sans doute prendre une initiative. De quelle nature? Pour faire quoi?
Écoutez, je pense qu'il y a deux grandes priorités. Une première priorité est liée à l'euro. C'est-à-dire l'euro, dans les dernières 10 années, dans tous les pays européens, peut-être sauf l'Allemagne, a été un peu synonyme de austérité, crise, décroissance, choses qui ne marchent pas bien. Alors, il faut absolument que l'euro devienne synonyme de croissance. Donc, il faut qu'il y ait des réformes à l'intérieur de la zone euro. Donc là, Macron va avoir un premier grand défi, c'est-à-dire cette Europe à plusieurs vitesses dont on parle va commencer par le fait qu'il y a déjà une Europe à plusieurs vitesses, la zone euro. Et maintenant, il faut que cette zone euro puisse démarrer et être beaucoup plus efficace. Il faut qu'il y ait des nouveaux instruments capables de être concrets et efficaces dans les cas d'une nouvelle crise. On ne peut pas se permettre la décennie qu'on a derrière nous, avec les crises d'Irlande, de Grèce, on n'avait pas les instruments.
Oui, il a fallu les inventer en marchant.
Ça a été un peu un désastre. On a perdu de l'argent, les gens, le chômage qui a monté. Deuxièmement, il faut, à côté de ces instruments, il faut qu'il y ait aussi les instruments qui lient l'euro, la politique monétaire et la politique de l'investissement. Parce qu'en Europe, on est en manque d'investissement. On a eu le plan Juncker, il faut faire plus. Donc il y a là un domaine. Je pense que pour Macron, c'est même facile parce que c'est son domaine, c'est-à-dire c'est sa compétence. Il a fait ça pendant les années du gouvernement, donc on s'attend beaucoup de lui. Mmh. Et surtout, on s'attend que lui, il fasse bouger l'Allemagne. Ça, c'est le point essentiel.
Dans quel sens ?
Il faut que l'Allemagne soit plus attentive aux exigences de solidarité dans le côté économique, social, financier. Et donc là, les rencontres que Macron va avoir avec ses homologues, son homologue allemande, et les ministres avec leurs homologues allemands, vont être décisives pour faire bouger l'Allemagne. Et là, il y a une seule façon pour que la France puisse faire bouger.
Oui, c'est donnant-donnant, j'imagine, Enrico Letta.
Et donc, il faut que la France donne des gages sur le sujet budgétaire, réforme interne et tout ça. Mais je pense que l'Europe attend un deal entre France et Allemagne sur ce côté. C'est un gagnant-gagnant. Le deuxième sujet, c'est le grand sujet de la défense et de la sécurité. Et là, c'est la France qui mène le jeu. Il faut qu'il y ait des pas en avant en mettant en commun ce qui aujourd'hui n'est pas en commun. Je viens d'un pays, en Italie, comme l'Espagne, comme d'autres pays dans lesquels on n'est pas vraiment habitué à travailler ensemble avec la France sur le domaine militaire. On a une longue tradition dans laquelle on travaille plutôt avec les Américains et les Britanniques. Mmh. Franchement, c'est un peu contradictoire avec la situation politique qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt France, Allemagne, Espagne, Italie, les Pays-Bas qui doivent travailler ensemble, aussi sur le côté défense. Là, c'est à la France de prendre une initiative et de voir comment ça peut marcher. Il faut stabiliser la Méditerranée, il faut une lutte au terrorisme, il faut créer un espèce de FBI européen, il faut arrêter avec cette idée de chaque service d'intelligence, de renseignement qui travaille à tout seul.
Et puis il paraît qu'il coopère bien, nous disent un certain nombre de spécialistes du terrorisme, de la sécurité. Je pense au député Dangean, Arnaud Dangean, qui dit, bon, il n'y a peut-être pas besoin d'institutionnaliser ce qui fonctionne bien, pas besoin d'un bâtiment pour faire de la coopération alors que les services coopèrent.
Bon, franchement, je suis pas d'accord. Je ne pense pas que dans les deux années qu'on a derrière nous, avec le terrorisme qui a frappé l'Europe un peu partout, les services de renseignement ont été collectivement très efficaces. Ils ont fait un très beau travail, pays par pays, mais les terroristes, ils passaient les frontières. Et les informations doivent passer les frontières. Donc il faut là qu'on fasse vraiment un pas en avant. Et l'autre grande question qui est liée à ces aspects sécuritaires, identitaires, de défense, est naturellement la question de comment gérer les flux migratoires. Et là, l'Europe est importante parce que c'est aussi une façon de parler à nos citoyens et de dire, écoutez, quand il y a 1 million de réfugiés qui frappent à nos portes, il n'y a pas de réponse nationale efficace possible. Il faut qu'on fasse tous ensemble. Mais si tous ensemble, on échoue, alors là, c'est le chaos total. C'est comme ça a été jusqu'à maintenant. On peut et on doit avoir des instruments européens. Et là, il faut qu'on travaille ensemble. La rencontre entre Macron et le Premier ministre italien Gentiloni était positive. Il a dit des mots très importants.
Vous décrivez ce qu'on appelle le fédéralisme, là, non, Enrico Letta?
Bon, écoutez, j'appelle le concret, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça, c'est un fédéralisme, c'est un mot interdit maintenant.
Oui, j'appelle le concret, c'est-à-dire j'appelle...
C'est un synonyme, donc, concret de fédéralisme.
Une coopération entre pays à faire des choses sur lesquelles on démontre aux citoyens qu'en faisant ensemble, on fait mieux qu'en faisant chacun tout seul. Et ça, c'est le point essentiel, parce que sinon, vraiment, on ne comprend pas pourquoi on fait l'Europe. On fait l'Europe parce que on est plus fort ensemble, dans des domaines sur lesquels, désormais, globalisation, menace internationale. Regardez la grande nouvelle de cet après-midi. des États-Unis. Il nous arrive la nouvelle que Trump va sortir des accords de Paris sur le climat. C'est incroyable ce choix des Américains. Il faut que l'Europe devienne adulte. Et quand je dis l'Europe, il est clair que dans ce cas-là, c'est pas seulement un pays. Vous pouvez pas laisser le Portugal, l'Italie, la France, la Belgique tout seul face à Trump, à ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et tous ensemble, on est en condition, je pense, de faire basculer les choses au niveau mondial.
Mais est-ce qu'il y a un désir, justement, de cohérence, d'avancer ensemble? Est-ce que vous le sentez quand vous dites l'Europe doit devenir adulte, ça veut dire prendre en main son propre destin et se penser elle-même comme une grande puissance à l'échelle mondiale? Est-ce que ce saut-là, politique, mais peut-être psychologique d'abord, vous pensez que l'Europe est prête à le faire?
J'ai vu un pas en avant le jour des élections françaises. La France a donné à l'Europe un signal que la France n'avait jamais donné. J'ai jamais vu quelqu'un faire des campagnes électorales avec un tel, parmi les leaders français, avec un tel élan européen comme Macron l'a fait. Et en Europe, ça s'est vu. Le fait que ça a été l'hymne à la joie le jour de la victoire de Macron, ça a été un signal très fort. Donc, ça a été un pas en avant. Un deuxième pas en avant, c'est ce que Merkel vient de dire dimanche.
Il faut que les Européens prennent leur destin en main, c'est ça ?
Franchement, ça a été 50 secondes de discours très fort. Et ce n'est pas la Merkel que je connaissais. C'est pas la Merkel d'il y a 10 ans. C'est pas la Merkel des débuts. C'est une Merkel qui a évolué, qui est aujourd'hui devenue plus européenne de ce qu'elle était au début. Donc, je pense que les choses sont en train de changer. Jusqu'à maintenant, je vois un changement qui est surtout dans les deux grands pays, la France et l'Allemagne. Je vois ce changement beaucoup plus incertain et faible dans les pays qui ont plus connu le chômage et la difficulté, comme mon propre pays, l'Italie, dans lequel l'anti-européisme aujourd'hui reste très fort, et même l'Espagne. Donc là, il faut faire des choix tous ensemble.
Alors, précisément, c'est ça la question, Enrico Letta. Il y a des projets de relance, il faut prendre des initiatives, vous avez pu décrire à quoi tout cela pourrait ressembler. Est-ce que cette réponse-là vous semble à même de désamorcer le sentiment européen qu'on voit partout?
Il faut absolument qu'il y ait des annonces, des paroles et des effets concrets. La chose qu'on doit absolument éviter, et c'est ce qui s'était passé pendant la crise économique et financière. Vous vous rappelez, on avait commencé en 2008, 2009, 2010, et les leaders avaient commencé avec des grandes annonces. Aucune de ces annonces avait eu une conséquence concrète. Et quand vous faites ça, les gens disent « bon, ce n'est pas sérieux ». Et donc il faut absolument tourner la page et entrer dans une situation dans laquelle on fait moins d'annonces, mais les choses qu'on fait, qu'on annonce, on les fait. Et là, je pense que c'est un très important mission, voilà, une très importante mission pour Macron, Merkel, pour les équipes, pour les autres pays, pour les leaders italiens, espagnols et les autres, aujourd'hui d'entrer dans un monde, dans un moment dans lequel les électeurs français ont donné un peu, voilà, un peu de d'espace à une relance européenne. Maintenant, il faut qu'elle donne des réponses concrètes. Il ne faut pas qu'on reste aux paroles seulement.
Mais vous pensez vraiment que ça suffira pour désamorcer le sentiment anti-européen?
Je
repose la question.
Oui, je pense que le sentiment anti-européen a besoin de deux choses pour être amorcé. La première, c'est que l'économie marche. Donc il faut que les choses que concrètement cette relance macronienne européenne emmène, ce soit des choses qui font en sorte que l'euro ne soit pas synonyme de choses négatives, mais synonyme de croissance, de choses positives. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est très important qu'il y ait de l'unité et un récit positif de ce que l'Europe peut faire. et donc des résultats positifs et du fait que ensemble on peut être mieux que tout seul.
Qui va le dire ça,
les leaders, européens.
Jean-Claude Juncker qui va prendre la parole pour nous faire rêver de l'Europe de demain et de la beauté du continent.
Ce serait déjà quelque
qui
chose.
Qui incarne ce truc-là, quoi.
Ce serait déjà quelque chose si les leaders européens cessaient de jouer le jeu du bouc émissaire avec l'Europe. C'est-à-dire cessaient de faire en sorte que l'Europe devienne une chose sur laquelle on ne fait que
taper.
Et passer avec le jeu du bouc émissaire de ce que les pays ne veulent pas faire, et ils font le faire à l'Europe d'une façon négative. Alors, arrêter le jeu du bouc émissaire, c'est, je pense, la première des choses importantes qu'on peut faire.
Mais ça, c'est compliqué quand même, puisque chacun est pris dans des enjeux de politique intérieure, et on sait bien que la critique de l'Europe, c'est un carburant facile pour gagner des points dans les sondages.
Oui, mais je pense qu'en voyant la chose de l'extérieur, la grande peur que toute l'Europe a eue, en voyant Marine Le Pen possible présidente de la République en France, a joué quelques rôles importants. Les gens ont commencé à dire, bon, si on continue comme ça, tout va se gâcher, tout va se casser, tout va exploser. Donc, on voit la mort en face, et donc peut-être on va commencer à jouer les choses différemment.
Le Brexit, c'est oublié, ça ?
Non, c'est pas oublié. Ça, je pense que ça a été très important. Et à la fin, moi j'étais contre, mais ça a été très positif, je le dis très franchement.
Parce que ça a ressoudé les rangs, c'est ça ?
Écoutez, on est là aujourd'hui, et on peut faire des choses en Europe plus positives parce qu'il y a eu Brexit et Trump. Il faut le dire très franchement, ce sont deux choses, de mon point de vue, très négatives, mais ça a aidé. Ça a dit aux Européens, écoutez, si vous continuez comme ça, c'est fini. Donc, réfléchissez.
Bah, je suis heureux d'avoir accueilli un Européen heureux, justement, au micro de France Inter. Heureux et optimiste, donc, à vous entendre.
Aujourd'hui, oui. Si vous me demandiez ça il y a 3 semaines,
non,
j'étais un peu plus...
Voilà, bon, mais douteux. Demain matin, ça tient encore ou pas?
On va voir. Vous m'invitez, on en parle.
Ah oui, parce que c'est peut-être indexé sur l'heure de la journée aussi. On verra ça. Merci beaucoup, Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, président de l'Institut Jacques Delors, doyen de l'École des Affaires Internationales de Sciences. Michael Thébault à suivre. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you like? Say I'm gonna get high. Tell no insane. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you,
but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a tour.
Joe Cocker, 18h38. Merci d'écouter Inter.
Thank you, Otis. 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, vous nous emmenez en territoire palestinien, à Gaza. Rencontre, Michael, avec une communauté dont on ne parle quasiment jamais, la communauté syrienne.
Ouais, des familles entières venues d'Alep, de Homs, de Damas, et qui ont toutes fui la guerre en Syrie, évidemment. Près de 200 familles qui ont ainsi choisi la bande de Gaza comme refuge. Une zone pourtant soumise, on le sait, à un sévère blocus, en proie à une véritable crise humanitaire, violence quasi quotidienne, mais une zone qui sera pourtant pour beaucoup le dernier refuge. Bonsoir Marine Vlaovic.
Bonsoir Mickaël.
Vous êtes notre correspondante dans la bande de Gaza et vous avez donc rencontré ces réfugiés syriens passés finalement d'une guerre à l'autre.
Oui, et certains ne sont pas difficiles à trouver car ce sont déjà devenus des célébrités locales. C'est le cas d'Anas Katerji, figure ronde, rire sonore. Il s'affaire en cuisine en jonglant avec les épices et les ustensiles.
Je suis en train de préparer du taboulé, du shawarma, mais à la mode d'Alep. Que des bonnes choses.
Le jeune homme a ouvert un restaurant de spécialité syrienne, bien sûr, niché dans un quartier populaire du sud de Gaza City. Gaza, il y a encore 4 ans, ce n'était qu'une boutade pour Anas et ses amis lorsqu'ils étaient encore sous les bombes à Alep au premier jour du conflit syrien.
Un jour, je leur ai dit « je vais partir ». Ils m'ont demandé « mais pour aller où ?» Et j'ai répondu « à Gaza ». J'ai parlé de Gaza parce que c'est l'un des pires endroits au monde. Dieu m'a entendu, j'aurais dû lui demander de me donner $1 million.
Mais c'est sans un sou en poche que le trentenaire s'est d'abord réfugié en Égypte, avant qu'on ne lui propose un travail à Gaza qu'il a regagné en 2013.
Et pourtant l'accès à la bande de Gaza est contrôlé par les Israéliens, par les Égyptiens. Impossible d'y entrer ou d'en sortir sans permis. Alors comment a-t-il fait ?
Eh bien, comme des dizaines d'autres Syriens, Anas est entré illégalement via l'un de ces fameux tunnels de contrebande qui a alimenté pendant des années le trafic du Hamas. Mais c'était avant la guerre, celle de l'été 2014, qui a vu s'affronter l'État hébreu au mouvement islamiste. 2000 morts, une enclave palestinienne dévastée par les bombardements et la destruction totale des galeries souterraines, seule issue de secours possible pour les réfugiés syriens qui sont désormais bloqués dans cette prison à ciel ouvert, plaisanterait presque Ratibé Allé.
Mais où trouver une meilleure prison ? Nous n'avons pas d'électricité, pas de frontières ouvertes. On ne peut pas sortir d'ici. Si c'était le cas, je me sentirais plus en sécurité. Mais non, pas d'électricité. Nous sommes bloqués ici. Quand nous sommes arrivés, c'était calme. Ensuite, nous avons connu 2 guerres. Et ici, les gens disaient « c'est normal ». Pour moi, ça ne l'était pas. Et puis, ça l'est devenu.
La quadragénaire a quitté Yarmouk avec son mari et ses 6 enfants. Car comme la majorité des Syriens établis désormais à Gaza, Ratiba est une double réfugiée. Elle est en fait d'origine palestinienne. Sa famille a fui la Palestine en 1948 lors de la création de l'État d'Israël pour rejoindre la Syrie. Une sorte de retour aux sources que regrette aujourd'hui la quadragénaire.
Et ces réfugiés syriens, Marine, est-ce qu'ils n'ont pas l'espoir de quitter un jour la bande de Gaza ?
D'abord, certains ne le désirent tout simplement pas. Des organisations humanitaires qui travaillent à leur côté estiment que près de la moitié des 200 familles souhaitent rester à Gaza, comme Anas, qui n'envie rien au sort des centaines de milliers de réfugiés syriens qui ont rejoint l'Europe.
Ici, j'ai une bonne situation, j'ai ouvert mon commerce, j'ai construit mon foyer. Oui, cette région est sans espoir, mais rien que d'imaginer d'être parqué dans un centre d'accueil en attendant mon allocation parce que je ne peux pas travailler, c'est un sentiment insupportable.
Et pour les autres, c'est un véritable casse-tête administratif, une situation kafkaïenne, car Israël doit approuver tous les dossiers de transfert. Le gouvernement syrien a quant à lui demandé aux Égyptiens d'extrader les ressortissants syriens qui s'échapperaient de Gaza. Et pour le moment, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a sélectionné une 30aine de familles souhaitant se rendre au Canada et en Europe. Mais le processus pourrait prendre de 6 mois à 2 ans et les réfugiés syriens de Gaza ont le temps de regarder de loin le conflit sans dans leur pays d'origine, sans espoir d'y retourner un jour.
Marine Vlaovic, correspondante de France Inter en territoire palestinien. Merci.
Direction la Chine maintenant, Michael. La Chine où une décision de justice taïwanaise est commentée partout.
Oh que oui, décision rendue le 24 mai dernier, mais qui est toujours en tête des topics, ou si vous préférez, des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux chinois. Décision qualifiée d'historique, puisque Taïwan a choisi d'autoriser le mariage homosexuel, suscitant évidemment un immense espoir dans toute la communauté gay du continent chinois, où l'on espère précisément que l'exemple taïwanais sera un jour suivi. À Pékin, le reportage de notre correspondante permanente, Dominique André.
Xiao Gang dirige l'ONG Égalité des sexes à Pékin, créée en 2002. L'arrêt de la cour de Taipei soulève beaucoup d'espoir dans le mainland, la Chine continentale, où l'homosexualité a été rayée de la liste des maladies mentales qu'en 2001. C'est à Gulo, centre culturel et branché de Pékin, que nous reçoit Xiao Gang.
Je pense définitivement que c'est une incroyable et bonne nouvelle pour les habitants de Taïwan et aussi pour ceux qui vivent en Asie. C'est vraiment un très très bon signal qui est envoyé. Spécialement, je pense, pour la population chinoise, car nous avons entre Taïwan et la Chine des relations très spéciales. N'importe quel mouvement sur l'île de Taïwan a un très grand impact sur les habitants de Chine continentale.
Avez-vous des discussions possibles avec le gouvernement chinois ou d'autres responsables ici sur les droits des groupes LGBT?
Vous pouvez organiser des petits événements dans d'autres villes, mais à Pékin, c'est devenu un peu difficile. Mais vous savez, cela ne concerne pas que la communauté LGBT, mais toutes les organisations de la société civile doivent se montrer prudentes. Je pense que des choses peuvent se produire dans d'autres villes en Chine. Mais une chose est certaine aujourd'hui, on se demande de quelle manière on pourrait dire à notre gouvernement « Regardez, les choses sont en train de changer autour de nous, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire ».
Les homosexuels chinois s'organisent comme ces deux jeunes femmes qui vivent en couple et veulent se marier. Leur action a été diffusée sur le site de vidéo Tiyi, très connu en Chine.
On est venu pour interpeller les représentants à l'Assemblée nationale populaire pour déposer une proposition de loi sur la légalisation du mariage des homosexuels.
Au sein du Parlement national, quelques délégués comme Wu Ting se disent favorables au mariage des personnes de même sexe.
Le mariage des homosexuels n'est pas intégré dans la loi. Mais moi, je suis pour. Le mariage est une affaire de deux personnes. Il n'y a pas de différence entre les personnes de sexe différent et celles du même sexe. Ils ne font de mal à personne, elles ne sont pas hors la loi. Je trouve que la société est de plus en plus ouverte.
Les groupes LGBT voudraient avoir un interlocuteur au sein du pouvoir pour discuter et faire progresser leurs droits.
Reportage à Pékin, signé Dominique André.
Et deux infos en bref, Michael. La première en provenance des États-Unis.
Et plus précisément de la petite ville de Channel View, près de Houston, Texas, où une collégienne de 13 ans, Lisette Villanueva, est devenue en quelques jours une personnalité que s'arrachent les médias américains. D'abord radio et télé locales, puis CBS, CNN, New York Times et Washington Post. Alors pourquoi cette soudaine notoriété? Eh bien parce que la collégienne, la semaine dernière, a été désignée par ses professeurs lauréate d'un prix un peu particulier. Prix, je vous le donne, de l'élève le plus susceptible de devenir un terroriste. Explication, l'adolescente avait ricané en classe au lendemain de l'attentat de Manchester, suffisant, selon ses enseignants, pour organiser une petite cérémonie devant tout le collège. Élèves et professeurs réunis, Lisette s'est donc vue solennellement remettre son prix d'apprenti terroriste. Et les enseignants ont trouvé cela tellement drôle qu'ils en ont profité pour décerner deux autres palmes. Prix de l'élève le plus susceptible de pleurer pour un rien et prix de l'élève ayant le plus de chances de devenir sans-abri. Tollé dans tout le pays, où une pétition vient d'être lancée pour limoger l'ensemble des professeurs et de la direction du collège.
Toujours en bref, Michael, l'Afrique maintenant avec cette mise en garde de l'OMS.
L'Organisation Mondiale de la Santé qui tire même la sonnette d'alarme, car l'Afrique consomme de plus en plus d'alcool fort, Nicolas. Le continent est même devenu le nouvel Eldorado des géants du secteur. Traditionnel alcool de palme, de canne, de riz ou la bière, détrônée par les vodkas, whisky et autres gins. Les les alcooliers occidentaux font exactement la même chose que ce qu'a fait l'industrie du tabac il y a plusieurs décennies pour croître et augmenter leurs profits sur ce marché africain pour l'instant sous-développé. Matraquage publicitaire, en profitant bien sûr des prix très bas de la pub africaine, peu ou pas de politique de santé publique, peu ou pas de contrôle ni de normes. Résultat, les alcooliers inondent le continent de leurs boissons fortes, croissance à deux chiffres et risques sanitaires qui s'envolent d'autant, prévient l'OMS.
Et pour finir, Michael, comme chaque mercredi, on s'arrête à Bruxelles.
À Bruxelles, où nous attend Quentin Dickinson, bonsoir.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors ce soir, mon cher Quentin, on reparle de cette peur panique qui a saisi les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroports en Europe. L'idée que Washington interdise les ordinateurs portables et tablettes en cabine dans les vols vers les États-Unis. Mais il y a quelques heures, Quentin, la Commission européenne est apparemment parvenue à faire fléchir les Américains.
Oui, on en a peu parlé, la chose s'est faite assez discrètement. Ce sont les commissaires européens aux transports et aux affaires intérieures, la Slovène Violeta Bulc et le Grec Dimitris Avramopoulos, qui ont eu un long échange téléphonique avec le secrétaire américain à la sécurité du territoire, John Kelly, et qui ont fait reculer la menace imminente de la mise en œuvre unilatérale d'une mesure qui aurait provoqué sans aucun doute un chaos généralisé dans le trafic aérien dans toute l'Union européenne.
Alors précisément, quel était le scénario cauchemardesque que redoutait tout le secteur des transports aériens ?
Eh bien, vous le savez, les Américains avaient eu vent, par les services de renseignement israéliens, de la capacité désormais maîtrisée par des groupes djihadistes d'introduire un engin explosif dans un ordinateur portable. Les services de sécurité américains avaient alors imaginé d'imposer la mise obligatoire en soute de tout appareil électronique individuel. Mais outre que cela n'empêche nullement une explosion différée, les compagnies aériennes ne veulent pas d'une concentration en soute d'un grand nombre d'appareils dotés de batteries au lithium, connus pour leur propension à prendre feu. Les compagnies ainsi que l'Agence européenne de sécurité aérienne plaident au contraire pour les maintenir dans la cabine où l'intervention du personnel de bord peut s'effectuer rapidement, ce qui n'est évidemment pas le cas si le feu se déclenche en soute. La solution adoptée par une poignée de compagnies du Proche-Orient consiste à enfermer les appareils électroniques dans une partie de la soute munie d'un système d'arrosage automatique. Mais le coût et le temps nécessaire pour en équiper tous les appareils long courrier de toutes les compagnies européennes perturberaient, on s'en doute, grandement le trafic aérien, à l'exception bien sûr des vols d'avions cargo.
Et puis les aéroports redoutent aussi la paralysie, Quentin.
Oui, car la vérification, l'emballage ignifugé anti-choc, l'étiquetage avant la mise en soute représenterait, selon l'estimation des aéroports de l'UE, un temps d'attente supplémentaire de l'ordre de 2 heures par vol, ainsi que l'embauche et la formation accélérée d'un grand nombre de contrôleurs supplémentaires, pour chacun desquels il faudra instruire, après enquête de proximité, un dossier individuel de risque de sécurité. La mesure, telle qu'elle s'applique actuellement au trafic entre le Proche-Orient et les États-Unis, affecte environ 350 vols par semaine. Une extension au vol entre l'Union européenne et les États-Unis pénaliserait 390 vols par jour.
Bon, dernière question, la menace est-elle définitivement écartée ?
Bien difficile d'être affirmatif. Pour le département américain de la sécurité du territoire, oui. Mais d'autres sources gouvernementales de l'équipe Trump soutiennent que la mesure reste malgré tout sur la table. Vigilance donc, Nicolas.
Et Quentin
Dickinson,
en direct de Bruxelles. Merci, mon cher Quentin, Nicolas. À demain.
À demain, Michael.
Un jour dans le monde. Sur France Inter.
Un jour dans le monde numérique, Julien Baldacchino, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Pour commencer, Julien, Google qui s'attaque de plus en plus à l'éducation aux États-Unis.
Et la semaine dernière, l'entreprise a fait un pas de plus dans ce marché avec le lancement de son tableau interactif, le Jamboard, qui est un grand écran tactile.
Meet Jamboard.
Voici Jamboard, l'espace de collaboration dont vos idées ont besoin.
Sketch,
dessiner, afficher images, des images, ajouter notes, des notes, récupérer des choses depuis le web. Capturer les moindres détails, même quand vous travaillez sur de grandes images.
Alors c'est encore cher, hein, 5 000 $ pour les acteurs du monde de l'éducation qui adhèrent au programme G Suite for Education, qui est un ensemble de logiciels proposés gratuitement aux établissements scolaires alors qu'ils coûtent très cher pour les professionnels.
Et cette stratégie agressive fait ses preuves ?
Oui, en 2 ans, la part de marché dans le système scolaire américain a grimpé en flèche pour Google. Elle était de 41% en 2014, elle s'élève à 59% fin 2016. Un succès qui passe par le carton des ordinateurs portables de Google, les Chromebooks, qui étaient à 1% de part de marché en 2012, 58% aujourd'hui, parce qu'ils sont très bon marché d'abord et surtout parce que leur système est très facile à contrôler, à verrouiller pour s'assurer que les élèves utilisent bien leur ordinateur à des fins éducatives. Conséquence, Apple qui a plongé mais le paquet sur les offres d'iPad pour les écoles et Microsoft qui est assez stable sur 3 ans vient de lancer une version de son système Windows 10 pour l'éducation avec des facultés de contrôle plus poussées.
Julien, autre sujet, on s'intéresse souvent, on s'interroge souvent sur l'utilité des objets connectés. Au Québec, l'université de Laval en a développé un vraiment utile.
Oui, il s'agit d'un t-shirt connecté destiné aux patients atteints de maladies cardiaques ou respiratoires. Un objet qui est un vêtement normal en apparence à un détail près. Il est muni au niveau de la poitrine d'une antenne en fibre optique qui transmet des données sur la respiration à un iPhone ou à un ordinateur pour surveiller en temps réel le rythme cardiaque. Alors voilà ce qu'en dit à nos confrères de Radio-Canada l'un des chercheurs de ce projet, Younes Messadek, qui explique les applications du dispositif.
À chaque respiration, chaque mouvement respiratoire que je produis, j'aurai une fréquence. Donc cette variation de volume du poumon, je le détecte rapidement. Et c'est ça les choses qu'on travaille actuellement. S'il y a une variation qui est vraiment, on dit, qui est brusque, on aura une alarme sur notre signal qui va nous permettre d'intervenir rapidement.
L'objet devrait aussi permettre de repérer des problèmes respiratoires comme l'apnée du sommeil ou les arythmies cardiaques. Les chercheurs espèrent que la technologie sera disponible pour tous d'ici quelques années.
Et enfin, pour terminer, Julien, les intelligences artificielles, elles aiment le jeu vidéo.
Et ça, ce n'est pas nouveau à la base. Ça fait des années que des ordinateurs savent jouer à des jeux vidéo et même battre des humains. Mais l'expérience menée par le chercheur californien Deepak Patak va beaucoup plus loin. Son logiciel s'est formé tout seul à un jeu vidéo bien connu. Alors vous avez reconnu Super Mario, ouais. Jusqu'à présent les intelligences artificielles qui apprenaient à jouer à ce jeu le faisaient avec un seul objectif, marquer le plus de points possible. Et bien dans cette expérience, l'intelligence artificielle a l'objectif d'explorer le monde du jeu pour montrer qu'un logiciel peut apprendre des choses par simple curiosité et pas pour une récompense particulière et qu'en plus il devient efficace plus vite que quand l'objectif est de marquer des points. Seul bémol, ce comportement provoque des réactions un peu trop humaines de la part du logiciel. Il est arrivé qu'à force de tomber dans des ravins ou de perdre des villes, l'intelligence artificielle finisse par se décourager et par arrêter spontanément de jouer.
Julien Baldacchino, merci.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Les présidents français sur le petit nuage de la politique étrangère.
Ben oui, c'est un grand classique pour les présidents de la République, à peine consacrés par le suffrage universel, dotés du pouvoir du feu nucléaire. Ils s'envolent vers l'Olympe de la politique étrangère pour côtoyer les puissants de la planète. Ils passent du statut de candidat politicien à celui d'homme d'État glorieux et s'affranchissent de la politique domestique qui les a pourtant fait roi. Alors chacun agit à sa manière. En 1995, avec Jacques Chirac, ce fut la force brutale. Reprise des essais nucléaires dans le Pacifique, vous avez protesté à l'époque, Nicolas, et vive réaction contre les Serbes de Bosnie. Rien ou si peu sur l'Europe, si ce n'est déjà la volonté de ne pas appliquer les accords de Schengen. En 2007, son successeur, Nicolas Sarkozy, met la diplomatie émotionnelle et agressive. Émotionnelle avec la défense des infirmières bulgares détenues en Libye. Agressive, comme en témoigne son refus d'appliquer les règles budgétaires de l'euro. Son argumentation se résumant à traiter de gros cons le ministre des Finances allemand dès sa première réunion à Bruxelles.
C'est une citation?
C'est une citation que j'ai vérifiée auprès de 4 ou 5 sources et qui est totalement confirmée. Alors, le traité de Lisbonne dénonce nos amis mélenchonistes, en fait, adopté en catimini, était tout à fait second. Alors François Hollande, lui, eh bien, il ne rejoignit pas l'Olympe des affaires étrangères. Il en subit les éléments célestes, la foudre en s'envolant pour Berlin au soir de son élection, la pluie, toujours la pluie, et surtout les éléments terrestres. Empêché chez lui par les frondeurs socialistes et les verts, il a fallu attendre l'intervention au Mali en janvier 2013 pour que naisse le président Hollande.
Et le président Macron va chercher à éviter ces écueils.
Oui, on arrive au point Macron. Pas d'unilatéralisme brutal comme Chirac, pas des car l'engagé comme Sarkozy, ni de diplomatie compassionnelle en personnalisant en public les dossiers. Une parole publique ferme, un sens de la mise en scène qui tranche avec la retenue de François Hollande. Macron se veut pragmatique, exigeant. Fini l'émotion, fini le repli, voici le retour de la réelle politique. Il faut dire, Macron arrive au beau moment. Poutine et Trump font figure d'épouvantail. Theresa May est affaiblie par le Brexit. Angela Merkel paraît en bout de course. Macron a donc choisi de jouer au plus fin, faire une politique de la main tendue, celle spectaculaire à Versailles à Poutine et celle à Trump, puisque Macron s'est gardé d'acter le refus de respecter l'accord sur le climat de Paris par Trump.
C'est dangereux pour lui ?
Ben oui, parce que Macron risque d'apparaître bien naïf. Si le président américain sort effectivement du traité de Paris sur le climat, comme l'annoncent les médias américains depuis cet après-midi, et il s'est bien avancé sur sa ligne rouge sur l'usage des armes chimiques en Syrie. Il devra alors lancer 3 missiles comme Trump sur la Syrie si ce cas se présentait pour éviter la démonétisation diplomatique. En réalité, Macron aurait pu faire beaucoup plus fort et créer un véritable rapport de force, Nicolas, vis-à-vis de Trump, mais avec les Européens. Alors, je donne 3 exemples que je n'ai pas trouvé tout seul. C'est en fait Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui me les a soufflés. Sur l'OTAN, il aurait pu faire signer aux Européens une déclaration stipulant que l'article 5, qui porte obligation d'assistance en cas d'agression, vaut en toutes circonstances et que les Européens défendront les États-Unis comme ils le firent après le 11 septembre 2001. Sur le climat, il aurait pu réaffirmer que l'accord de Paris sera respecté quoi qu'il arrive, avec le soutien de la société civile, des entreprises américaines, tant pis pour Trump. Sur l'Iran, au soir de la réélection du président modéré Hassan Rouhani, Macron aurait pu réaffirmer avec les Européens que cet accord vaut tant que Téhéran remplit ses obligations pour contenir Trump qui venait de classer de Riyad l'Iran dans l'axe du mal. Enfin, sur la Russie, Nicolas, on ne saura que plus tard si sa tactique marche volontairement. Vous avez noté, le président français n'a pas évoqué en public le sort de Bachar el-Assad, l'avenir de la Crimée dont chacun sait qu'elle restera russe et les sanctions contre la Russie. L'avenir dira si ce pari est payant. Mais pour cela, il faut s'entendre avec qui ? Eh bien avec Angela Merkel, Nicolas. On connaît le moyen de créer un rapport de force avec l'Allemagne, c'est accomplir les réformes nécessaires en France et pour cela, le président Macron devra redescendre de l'Olympe.
Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Merci. 19h20, le téléphone sonne ce soir. Question simple. Faut-il et peut-on sortir du diesel ? 01 45 24 7000.